Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Alors c'est en Corée qu'on part aujourd'hui, chers auditrices et auditeurs. Oui. Vous allez découvrir l'histoire de Dan Goon, le créateur mythique du pays du matin clair. Et on restera dans les mythes avec toi Didier. Tu vas nous donner envie de nous replonger dans le jeu légendaire de Nintendo avec Echoes of Wisdom, sorti il y a quelques semaines.
Eh oui.
Bah, c'est bientôt Noël. Hein.
C'est ça.
Comme d'habitude, voilà. Asialogie vous offre, chers auditrices, auditeurs, une fois une belle idée de cadeau.
Ça pourra avoir sa place sous le sapin.
Oui, tout à fait. Je pense que ça devrait faire plaisir, en tout cas.
Ça pourrait, certainement.
Il y a quand même beaucoup de personnes qui adorent Zelda.
Alors, dis-moi, Corinne.
Oui.
Revenons à autre chose. Tu me dis, comme le Japon, alors la Corée à son histoire construite sur un mythe, il y a des points communs ou pas, ou avec le soleil par exemple?
Ben non, pas du tout, Didier. Ça n'a pas de rapport véritablement avec le soleil.
D'accord.
Alors le mythe fondateur de la Corée est bien différent. Il est consensuel, contrairement à d'autres mythes, et fédérateur pour la société coréenne qu'on peut mieux comprendre au travers de l'histoire de Dan Goon, le plus célèbre mythe de la Corée, donc.
Bien.
Alors Dan Goon est à l'origine du premier royaume coréen qui s'appelait Go-Joseon. Alors ça veut dire ancien Joseon.
D'accord.
Parce que la Corée s'appelle aussi Joseon.
Mm-hmm.
Mais là on est donc dans les temps anciens, donc Go-Joseon.
Ouais.
C'était 2333 avant notre ère précisément.
Ouais, je confirme, c'est ancien.
C'est ancien. Bah, ça fait plus de 4000 ans.
Hein. Voilà.
Ben même 4000, oui, largement 4000, oui, presque 4500, pas loin. Alors ce personnage Dan Goon est important car il symbolise les origines sacrées du peuple coréen, en explique les racines spirituelles comme ses liens étroits avec le monde céleste. Alors l'histoire commence avant la naissance de Dan Goon, bien avant 2333, avec Wanin, le seigneur des cieux, le roi céleste, le dieu suprême. C'est un peu comme le dieu, comme Dieu, je dirais, dans notre culture occidentale, oui. Alors, Wanin avait un fils, Wanung, qui a voulu descendre sur Terre pour guider l'humanité, accompagné de 3000 assistants célestes. Alors, Wanung s'est installé avec sa suite sur une montagne, souvent identifiée au fameux mont Baekdu, la montagne sacrée dont on avait parlé, la montagne sacrée en Corée du Nord, hein, que les Coréens visitent en passant par la Chine.
Oui, je me souviens bien, c'est cette fameuse montagne du pèlerinage par la Chine, puisqu'elle aurait barré, effectivement, par la Corée du Nord et la frontière. Alors, mais concrètement, qu'est-ce qu'il va faire sur Terre, Wanung?
Alors, Wanung est venu construire son royaume terrestre et régner avec sagesse et bienveillance avec ses ministres du vent, de la pluie et des nuages. C'est très poétique aussi. Hein. Il avait pour but général le bien-être des humains, Wanung. Mais un jour, une tigresse et une ours, parce qu'il y avait des animaux, il y avait déjà des humains et des animaux.
Il n'est pas venu qu'avec 3000 personnes.
Voilà. Et donc la tigresse et l'ours sont venus voir Wanung et lui ont demandé de les transformer en êtres humains pour vivre avec eux. Wanung accepta avec une condition. Elle devait rester seule dans une grotte pendant 100 jours, sans sortir, et elle ne devait manger que de l'ail et de l'armoise.
À tout de même.
Oui. Alors, c'est pas très nourrissant. Hein.
Non, moi, j'y vais pas.
Et si elle... Enfin, tu resterais tigre ou ours?
Oui, c'est ça, mais la condition de tigre ou ours m'irait très bien.
Te conviendrait bien. Alors, voilà. Bah, alors, si la tigresse ou l'ours réussissaient, ou les deux, elles deviendraient donc humaines.
J'imagine.
Si elles sont restées 100 jours dans la grotte, à manger de l'ail et de l'armoise.
Alors, explique-moi, pourquoi de l'armoise et de l'ail?
Il y a du sens à tout ça, Didier, bien sûr. L'ail et l'armoise joue un rôle symbolique important, car ces deux plantes sont bien plus que des plantes. Elles représentent des valeurs spirituelles et culturelles dans la tradition coréenne. Alors, on connaît l'importance de l'ail hein, dans la cuisine.
Oui.
Alors, l'ail symbolise la purification du corps et de l'esprit, car avec ses propriétés antimicrobiennes et qui sont certifiées, oui. c'est connu, c'est une plante qui purifie de l'intérieur et qui renforce la santé. On le sait aussi, ça, en
oui,
Occident.
Ça,
hein.
Oui, oui.
En plus, l'ail, avec son goût fort et piquant, représente également la force et l'endurance. Si on supporte l'ail, on est fort et endurant, surtout si on en mange pendant 100 jours.
C'est ça, d'accord.
Voilà. Okay. Alors, en consommant cet aliment, la tigresse et l'ours vont devoir prouver leur volonté pour supporter la difficulté et le manque des qualités qui devraient les mener à devenir humaines.
Mmh.
Alors, quant à l'armoise, c'est un symbole de protection et de guérison. Elle est toujours utilisée dans les rituels pour éloigner les mauvais esprits, dans les rituels chamaniques, et purifier les lieux. Alors, en demandant à la tigresse et à l'ours de consommer de l'armoise, Wanung leur avait accordé une forme de bénédiction spirituelle pour les aider dans leur chemin vers l'humanité.
D'accord. Bon, alors, bon, comme tout est image, comme tu l'as dit, c'est quoi la signification spirituelle de l'épreuve, en fait ?
Bien, en fait, ensemble, l'ail et l'armoise sont les instruments d'un rituel de transformation. Le jeûne et l'isolement dans la grotte, combiné à la consommation de ces deux plantes, est comme un rite de passage. Mais je dirais, c'est un peu comme le jeûne dans la religion catholique ou dans l'islam aussi. Hein. Donc l'épreuve rappelle également que devenir humain, humain au sens avec toutes ses vertus, n'est pas chose facile.
Eh oui.
Et n'oublions pas que l'ail et l'armoise sont toujours des ingrédients importants dans la cuisine, comme je le disais, et la médecine traditionnelle coréenne.
Mm-hmm.
L'ail est essentiel dans de nombreux plats coréens, et notamment
le kimchi.
Kimchi, voilà. Tandis que l'armoise est utilisée pour préparer des infusions et des remèdes traditionnels.
D'accord, j'avoue, je connais moins.
Voilà, ben, moi aussi, je ne sais pas si on utilise l'armoise, sûrement.
D'accord, j'imagine.
Voilà. Donc, l'ail et l'armoise, dans le mythe, ne sont pas du tout accessoires. Ouais. Il y a vraiment un sens très symbolique. C'est une purification et aussi une connexion profonde avec la nature.
D'accord.
Alors, moi, je propose qu'on écoute une chanson en l'honneur de Dan Goon.
Mm-hmm.
Ça s'appelle Song of Great Joseon. Ça veut dire chanson du grand... de la Grande Corée, ou enfin, plutôt du grand royaume de Joseon.
D'accord. Alors, écoutons ça. Alors, vous êtes toujours sur Radio Alpa avec Asialogie et on va continuer de voir ce mythe se développer. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est est-ce qu'ils vont y arriver 100 jours à ce régime-là? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que la tigresse et l'ours vont réussir à devenir des humains?
Eh bien, Didier, c'est non pour la tigresse.
Ah, voilà.
Ben, on s'en doute un peu. Hein. Pour une tigresse, l'ail et l'armoise, ça fait peut-être un petit peu juste. La tigresse n'a pas pu supporter l'épreuve. Elle va donc rester tigresse.
D'accord.
Mais l'ours, avec sa détermination, va être transformé en femme, en très belle femme bien sûr,
j'imagine.
Avec une nouvelle vie à l'horizon.
Mm-hmm.
Donc vous imaginerez sans peine qu'elle était devenue, comme je le disais, très belle, mais aussi très sage, et que Wanung va bien sûr s'empresser de l'épouser.
Bah tiens, Tant qu'à faire.
Voilà, et c'est de cette union que va naître le mythique Dangun. Donc Dangun, c'est le fils de l'ours devenu humaine et de Wanung.
D'accord.
Et Dangun qui va devenir par la suite le fondateur de Gojoseon, le premier royaume coréen, en 2333 avant Jésus-Christ, comme je vous l'ai présenté.
Okay.
Alors Dangun va ensuite établir sa capitale sur le lieu de l'actuel Pyongyang.
Ah oui.
Oui, c'est donc c'est très. La, je tiens à préciser que la Corée du Nord et la Corée du Sud se partagent ce mythe,
bien sûr.
Oui,
on a déjà parlé.
C'est un mythe. Oui.
D'accord. Ok. Et là aussi, ça c'est quelque chose qu'ils partagent.
Complètement. Et Dangun va gouverner son peuple avec sagesse pendant 1500 ans.
Bien.
Jusqu'à ce qu'il devienne un esprit de la montagne. Alors c'était la montagne Asadal, à l'âge de 1908 ans.
Ah oui, là il se conserve aussi alors.
Oui, oui, oui.
D'accord.
Alors quelques mots sur la montagne Asadal.
Oui.
Asa signifie neuf et Dal signifie lune.
D'accord.
Et ce qui correspond à l'actuelle montagne Guwolsan. Voilà.
Okay.
Alors en résumé, le mythe de Dangun explique les origines célestes et divines de la Corée et le défi de l'ail et de l'armoise pour la tigresse et l'ours souligne l'importance de la persévérance et de l'harmonie entre le ciel, la terre, les animaux et les humains, éléments fondamentaux de la philosophie et de la culture coréenne.
D'accord.
Donc c'est pas rien quand même, c'est très solide comme mythe.
Et je te pose une colle, la Corée, comme ça. Et l'ours, on le retrouve encore ou pas comme un symbole?
Oui, c'est un symbole, mais c'est le tigre qui représente la Corée pour d'autres raisons.
Eh oui.
Oui, parce que c'est un animal, c'était l'animal mythique, il existe toujours sur le mont Paekdu. L'ours est un animal mythique pour la Corée, mais à travers la naissance de Dangun. Alors, il y a aussi deux autres mythes fondateurs nés beaucoup plus tard, mais je ne vais pas en parler beaucoup, peut-être on en parlera une autre fois.
Ouais.
Il y a le mythe de Jumong et la fondation de Goguryeo, qui est l'un des trois grands royaumes de Corée, fondé mais beaucoup plus tard, puisque là on est au 1er siècle avant Jésus-Christ.
Ah oui.
On a quand même avalé les siècles là.
Ça.
Et puis il y a aussi le mythe de Park Yogos et la fondation du royaume de Shilla. Alors là, je ne suis pas sûre de bien tout prononcer.
Oui, mais c'est en pas tout moi cas, le royaume. Les auditeurs savent comme je suis très fort.
Oui, mais le royaume, voilà, la fondation du royaume de Shilla qui a été fondée vers 57 avant Jésus-Christ.
D'accord.
Ah, donc on est presque à notre ère. Alors on en parlera une autre fois. Bon, il faut savoir que ces récits sont enseignés, tous ces récits là que je viens de citer, dont bien sûr le mythe de Dangun, sont enseignés dans les écoles et que leur influence se retrouve dans la littérature, dans tous les arts et bien sûr dans le chamanisme.
D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il reste de l'héritage de l'histoire de Dangun dans la société coréenne d'aujourd'hui?
Ça reste très présent, puisque chaque année, le 3 octobre, les Coréens, donc c'était il n'y a pas longtemps, les Coréens célèbrent avec fierté, alors c'est Gachonjol, le jour de la fondation de la Corée en l'honneur de Dangun.
C'est une fête nationale.
C'est leur fête.
C'est leur 14 juillet, quoi.
C'est leur, exactement,
okay,
c'est leur fête nationale au nord comme au sud. Alors, Gachonjol signifie le jour où le ciel s'ouvre. Quand même, il y a des liens avec l'Occident dans la philosophie, je dirais. Le ciel a beaucoup d'importance. Et cela se réfère au jour où Anung est descendu du ciel sur Terre pour guider les humains. Alors, à travers leur fête nationale, les Coréens réaffirment leur unité, leur patriotisme, leur identité et leurs valeurs. Alors, les valeurs, c'est l'endurance, la ténacité, l'autonomie et la persévérance, qui sont toujours des vertus importantes pour les Coréens modernes.
D'accord.
Alors, de plus, c'est un jour où les Coréens réfléchissent à leur histoire ensemble, se souviennent de leurs racines et prennent de nouvelles résolutions pour l'avenir. C'est un jour très, très important pour les Coréens.
Alors, il est important, j'entends bien. Du coup, ça se traduit par quel type de manifestation ce jour-là?
Il y a des cérémonies officielles, bien sûr, comme chez nous, organisées par le gouvernement central et puis aussi les gouvernements locaux. Tous les monuments officiels sont pavoisés. Il y a de nombreux discours, des cérémonies, des offrandes, beaucoup de spectacles traditionnels. C'est beaucoup centré sur les spectacles traditionnels, sur la tradition. Et puis, il y a aussi la pratique de rites commémoratifs selon les rituels anciens. Et puis, bien sûr, on mange beaucoup en Corée.
Et
on boit aussi
je me doutais
pas
bien.
Mal. Voilà, c'est une, vraiment une grande fête pour tout le monde.
D'accord.
Bon, bah, moi, je vous propose qu'on écoute maintenant, pour introduire le sujet suivant de notre émission Nasiologie, Norman qui nous chante sa chanson sur Zelda. C'est un petit clin d'œil, c'est rigolo.
C'est rigolo.
Et c'est bien rigolo sur YouTube.
C'est ça, ouais.
Je...
Plane sur Hyrule, je tourne comme un vautour, comme un russe sur YouTube. J'escalade les tours, on m'a pas donné de voix. Je communique en sous-titré, mais des fois, je fais les onomatopées. Je suis en forme, j'ai dormi 100 ans, je reviens du passé. J'ai des armes solides, un coup, merde, elle est cassée. Je suis un cordon bleu, je cuisine comme un chef. Je fais des plats douteux, sponsor Masterchef. Je te mets quoi, un lézard ou deux? Parfois je sauve l'humanité, parfois je cueille des champignons. Mon équipe est dure, team Goron. Je fais des snaps de mes sables sur ma tablette Sheikah. Ma petite tenue Zora va faire kiffer Zelda. Je crée des bombes à l'infini, rond et carré à la fois. Je peux pas prendre l'avion, impossible pour moi de passer à la douane. Les énigmes ça rend fou, on va finir par m'interner. Mais moi je regarde, j'avoue, la solution sur internet. Triforce, paratonnerre sur le torse. Triforce contre Ganondorf, j'ai eu le courage d'affronter la canicule, le blizzard, les orages et libérer Hyrule. Triforce, paratonnerre sur le torse. Triforce contre Ganondorf, j'ai eu le courage d'affronter la canicule, le blizzard, les orages et libérer Hyrule. Libérer Hyrule. Je suis frais, je suis mignon dans tous mes opus.
Faux.
Ouais, bon là c'était les débuts hein. À 2 ou 3 pixels près. Bon, attends, je recommence. Millionnaire en rubis, je collectionne les chevaux. Faut que ton poil soit uni pour être dans mon écurie. Ouais, c'est vrai, je suis petit, mais faut pas me prendre de haut. En paravoile au-dessus de toi, j'entends pas ce que tu dis. Paye ta boisson. Paye mon glaçon, tu m'as copié en cosplay, mais t'es une contrefaçon. Quand je me bats, je fais n'importe quoi, je sais même pas ce que je fais. 10 000 objets dans mon sac, je sais même pas ce que c'est. Avant, je pétais des poteries, des vases et puis des jarres. J'étais la hantise de tous les potiers du royaume. Encore un coffre qui est fermé, j'ai pas la clé, j'en ai marre. Offre-moi un passe-partout si tu veux me faire un cadeau. Tous les soirs, je fais mes prières devant la statue déesse. J'aurais 20 en endurance si j'étais en EPS. Je galère dans les sanctuaires, sacré Miyamoto. Mais quand je déprime trop, je ressors l'ocarina poteau.
Moi, ça m'a beaucoup amusé, cette chanson, Didier. C'est Norman.
Oui, ça nous change un petit peu, c'est une petite parodie, quoi.
Oui, puis le clip est très drôle aussi. C'est sur YouTube qu'on a trouvé.
Voilà, faut le voir aussi, version clip, c'est sympa aussi.
Oui, version clip, c'est sympa. Et puis, bah, c'est quand même un beau clin d'œil pour les initiés.
Ah là, je pense qu'ils sortent.
Faut être initié quand même un petit peu.
C'est ça.
Alors, Didier, quelle surprise nous réserve le nouveau Zelda?
Alors, eh bien,
dis-nous.
Grand changement à Hyrule. Dans le monde de Zelda, il y a un nouvel épisode avec ce jeu qui est sorti en septembre. Il s'appelle Echo of Windows, les échos de la sagesse.
Oui, Echoes of Wisdom.
Oui, Wisdom, pardon. C'est le 29e opus de la série de la légende de Zelda. Et comme toujours, un jeu de rôle et d'aventure, mais qui vous mettra cette fois dans la peau de Zelda pour sauver Hyrule.
Oui, ça c'est un grand changement
voilà,
quand même.
Le jeu est disponible depuis le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch avec une édition spéciale pour la Switch Lite. Cette fois, c'est Link qui a disparu et c'est la princesse Zelda. C'est à elle d'endosser le rôle de l'héroïne. C'est bien dans le mouvement de notre époque.
Mais oui, c'est dans le ton. Hein.
C'est ça.
C'est dans l'air du temps, vraiment.
Voilà.
Alors, quel est le scénario de cette nouvelle aventure, Didier?
Alors, lors du prologue, Link combat et va vaincre Ganon, l'esprit démoniaque de la série, et va libérer enfin Zelda.
Ah oui, donc ça c'est normal, mais ça commence par la fin quasiment.
C'est ça, mais tout de suite après, d'étranges failles terrestres vont apparaître aux quatre coins du royaume d'Hyrule, et Link sera englouti.
Wow.
Alors Zelda va donc se retrouver seule, et fera la rencontre d'une fée nommée Tri, qui lui fait don d'une mystérieuse baguette, le sceptre de Tri. Et Zelda va devoir se mettre en route pour sauver son royaume et retrouver Link, bien sûr.
Oui, Tri comme la Triforce, j'imagine.
C'est ça.
Hein. Alors, si j'ai bien compris, Didier, Zelda n'aura donc pas d'épée. Elle va avoir son sceptre de Tri.
Oui.
C'est ça. Et ça va forcément tout changer dans le jeu.
Ah, ça va peut-être, mais il y aura une arme inédite quand même. Donc, ce fameux sceptre de Tri qu'elle va apprendre à utiliser. Bah, Tri, comme tu l'as dit, ça fait référence à la Triforce. Et Zelda va donc apprendre à créer à partir d'un objet un Neko, autrement dit, une réplique qu'elle pourra reproduire à volonté. Par exemple, si un mur lui bloque le chemin, elle pourra créer des échos de tables pour le franchir. Zelda va utiliser et combiner des objets de la vie quotidienne pour se battre. Il lui faudra plus d'ingéniosité que de force cette fois, en fait. Et ces échos seront essentiels pour résoudre les énigmes et combattre les ennemis. D'autant que Zelda apprendra à créer des échos de monstres cette fois aussi. Cette fois, c'est Zelda la sauveuse.
Ah oui, alors moi ça m'ennuie un peu qu'elle n'ait pas d'épée, j'aurais bien aimé qu'elle ait une épée, elle fait appel beaucoup à son intelligence, si j'ai bien compris.
Oui, oui.
Hein, donc ça aussi c'est important, c'est bien.
Oui, oui, le jeu n'est pas révolutionnaire, on est d'accord, mais nous surprendra quand même, puisque c'est Zelda l'héroïne,
oui,
ça on l'a dit.
Oui.
On y retrouve l'ambiance et le style enfantin qu'on connaît bien, avec une histoire facile à comprendre, et des nouveaux personnages qui enrichissent le thème. C'est dans les phases de combat que le jeu sera intéressant, parce qu'il demande plus de stratégie, de créativité. Il n'y a pas d'épée, comme tu l'as dit. Et comme son nom l'indique, Echo of Windows fait appel à la sagesse et à la réflexion. C'est un jeu dans lequel l'expérience de chacun et chacune sera différente. Alors, pour les joueurs aguerris, il y a au moins 6 heures de jeu et devrait plaire aux enfants comme aux adultes. Alors, au nouveau, comme les initiés du monde de Nintendo, on a hâte de l'essayer quand même.
Ah ben oui, moi j'aimerais bien l'essayer, mais je n'ai plus de Nintendo.
Alors moi, à la maison, pas moi, mais je connais du monde.
Oui, il va falloir que
tu
m'invites.
Les enfants vont nous initier.
Oui, bah tu vas leur offrir, j'espère, ton Noël,
je vais voir avec eux, parce
Icos
comme c'est sorti en
septembre. Wisdom, Didier.
Oui, Wisdom.
Wisdom, sagesse.
Comme ils vont l'avoir peut-être déjà, je ne suis pas sûr pour Noël.
Ah, oui, mais ils l'ont déjà, donc ils pourront me le prêter peut-être.
Oui, on va voir ça.
Oh bah c'est toujours plaisant de jouer à Zelda parce que c'est un monde qu'on connaît bien et ça nous aide à avancer quand même un peu plus vite dans le jeu.
C'est ça.
Bon, alors il paraît qu'il y a un musée Nintendo qui a ouvert ses portes à Kyoto en octobre, Didier.
Alors moi, toi, au-delà du jeu, ça m'a bien intéressé aussi. Oui, le musée vient d'ouvrir et puis il attire les foules. Hein. Il s'est installé dans l'ancienne usine de cartes à jouer de Hanafuda et Karuta, qui était la première activité du groupe né en 1889. Moi, ça, j'ai découvert. Je ne pensais pas que c'était si vieux. On peut dire que ce musée est un paradis pour les gamers. Il est décidé. Alors bien sûr, il y a plein de consoles de jeux, des jeux vidéo. Il propose une immersion ludique et nostalgique dans l'univers du jeu. Mais bon, c'est plus de 135 ans de jeux qu'il y a dans le musée. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas que du jeu vidéo. L'entreprise Nintendo Kōpai a été créée le 23 septembre 1889. C'était à l'origine une entreprise artisanale qui venait des cartes à jouer, les Hanafuda. Tu vois, ça, je me dis que j'aimerais bien retrouver ça pour offrir à Noël.
Oui, mais ça existe
sortir
toujours,
des
jeux.
Oui,
je
pense. Je
alors, est-ce qu'on en trouve en France? Ça, je ne suis pas sûre.
Eh bien, écoute, je mènerai
faudra
mon enquête
chercher
suite à l'émission. Alors, qui sont devenus très populaires. Et alors, en 1907, la société va exporter ses cartes à l'étranger et ce sera un succès. Nintendo va ensuite diversifier son activité dans le marché des portions de riz individuelles, la gestion de compagnies de taxi et de Love Hotel.
Ah ben ça, c'est surprenant quand même. Ils
Love
avaient
Hotel
vraiment une activité très diversifiée. Alors, pour revenir sur les cartes à jouer, là, les Hanafuda, on fera une émission sur les cartes à jouer en Asie, parce qu'il y a des très jolis jeux de cartes avec des règles différentes des jeux de cartes de chez nous. Et il y en a notamment, j'ai oublié le nom, mais ça je le retrouverai très facilement, un très joli jeu de cartes coréen avec des petites cartes en plastique, avec des jolies fleurs. C'est super beau.
Ça mérite une émission, effectivement.
Voilà.
Alors si on continue notre périple, en 1956, Nintendo va acquérir la licence pour utiliser les personnages de Disney sur ses cartes à jouer. Pour stimuler les ventes.
Ça vient de là.
Et puis chez les plus jeunes, notamment au Japon, où les cartes sont un domaine réservé d'habitude aux adultes.
Ah, c'est pour ça qu'ils se sont investis avec les produits Disney.
C'est ça.
L'image Disney.
Voilà, accéder aux enfants.
Pour toucher les enfants. Ils sont pas bêtes.
Eh oui, je crois qu'ils l'ont déjà démontré pas mal. Hein. Voilà comment a commencé en fait la fabuleuse histoire de nos consoles et jeux actuels, quoi, après, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée, Didier? On imagine qu'on va trouver des jeux.
Alors, oui.
Comment il est disposé? creuser. Oui.
J'ai fait aussi une petite découverte.
Tu as fait une petite visite sur Internet, parce qu'en attendant d'y aller.
Mais non, oui, parce que j'irai peut-être, mais pas dans les mois à venir. Alors moi, j'ai trouvé aussi un truc qui m'a surpris.
Oui.
C'est Nintendo, parce qu'on dit Nintendo, l'entreprise.
Oui, pour moi, ça veut dire console, oui.
Eh ben ouais, mais ça signifie en fait laisser la chance au ciel, ou alors ne laisser votre fortune entre des mains du destin.
Ah!
Alors, c'est deux significations.
C'est quoi le premier?
Laisser la chance au ciel.
Laisser la chance au ciel.
Moi, c'est ma préférée.
Donc, Nintendo, ça veut dire laisser la chance au ciel.
Voilà. Ah, ça, c'est une grande. Laisser fortune entre les mains du destin. Bon, ça, c'est
oui,
moins
c'est
poétique.
Oui, c'est peut-être un peu plus tiré par les cheveux.
Mais
j'aime
bien la première.
Oui, laisser sa chance au ciel. Voilà, voilà ce que veut dire Nintendo.
Voilà, j'imaginais pas que Nintendo voulait dire ça.
Alors, mais qu'est-ce qu'il y a dans le musée pour revenir au musée au musée qui laisse sa chance au ciel?
Voilà, c'est ça. Il y a deux étages qui nous racontent concrètement, en fait, les 135 ans d'histoire de la marque, de la fabrication, donc des cartes à jouer dont on a parlé, jusqu'à la conception de la Switch, en passant par la création de personnages de Mario, enfin les personnages mythiques qu'on connaît. On peut y voir exposer l'ensemble des consoles et puis des jeux vidéo cultes de la marque, et bien sûr. On peut y jouer.
Ah bah oui, ce serait dommage de pas y jouer.
Quand même. Je pense qu'il y a moyen de passer un petit peu de temps, parce que ça nous rappelle quelques souvenirs quand même.
Oui.
Et puis on peut aussi profiter de nombreuses animations. Puis vu le succès depuis son ouverture, les billets d'entrée sont mis en vente par un système de loterie.
Ouf.
Eh oui.
Oui, alors ça fait pas longtemps, oui. Donc, déjà.
Ça doit bien fonctionner. Bon, c'est un plaisir à peu près correct. Vu le temps qu'on doit pouvoir y passer, c'est 20 euros l'entrée pour aller au musée.
Bah, c'est pas trop cher, je
pense.
Non,
ça va encore. Ça va encore.
Merci Didier.
On peut passer une belle journée comme ça.
Et il paraît que le film Super Mario, moi je l'ai pas vu, mais il cartonne aussi. Enfin, il a cartonné à son.
Ah oui.
Mario est toujours
j'ai
à la mode.
J'ai eu des échos, voilà. Alors, j'avoue que moi, quand je vais au cinéma, c'est pas trop ma came, donc je sais pas trop en parler. Mais effectivement, ça avait eu un gros succès quand même.
Oui. Ça avait eu un gros succès.
Mario, pas signé, ça nous a accompagné quand même depuis de nombreuses années. Donc.
Je me souviens du premier Zelda où en fait on n'avait pas de carte mémoire pour conserver les vies. Il fallait qu'on reprenne toujours tout à zéro.
Oui.
Donc c'était forcément des heures
de
jeu.
En fait, ils ont de la chance maintenant.
Ils ont
auto-sauvegarde et tout ça.
C'est ça, il n'y avait pas de sauvegarde à mes débuts.
Eh bien écoute, pour qu'ils puissent se rendre compte de comment on jouait, il faut qu'ils aillent au musée de Nintendo.
Ouais.
Et
en tout cas,
là,
j'aimerais
ils vont pouvoir
bien.
Tester toutes les consoles.
Bon, Didier, c'est fini.
Eh oui.
Asialogie, c'est fini, les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous réécouter le samedi matin à 9h30 et aussi bien sûr en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa, bien sûr. Salut.
Salut.